Bonjour à tous et bonjour à toutes, il est midi sur Souvenir FM à Souston. Merci David pour la programmation, tu reprends la main dans une heure comme chaque jour et bienvenue à tous dans l'invité du 12-13, l'émission qui vous parle de ceux qui font bouger notre territoire et ceux qui ont des projets fous. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Courtès, alias Alex Desgivrés, avec qui nous allons parler aventure, dépassement de soi et Grand Nord. Bonjour Alexandre, comment ça va ?
Bonjour Marc, très bien, merci pour l'invitation.
Mais avec plaisir. Alors on se retrouve après le flash info national et international. Et c'est parti pour l'invité du 12-13 pour la première partie où je reçois, où nous recevons Alexandre Courtès, alias Alex Desgivrés. Alors sur Souvenir FM, Alexandre, la tradition du début d'émission, c'est la présentation des invités. On cherche à en savoir un petit peu plus sur leur histoire personnelle et leur parcours de vie. Et quelque chose me dit aujourd'hui que ça va nous prendre peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude, hein. Alors parlez-nous un petit peu de votre parcours et de votre histoire personnelle, tout ce qui vous a amené finalement à notre micro aujourd'hui.
Alors je rentre d'une expédition au cercle polaire. Il y a à peu près 2 ans, donc c'était le 10 février 2024, je suis victime d'un accident de snowboard. Et 2 opérations plus tard et 6 mois après, je me retrouve avec l'impossibilité de marcher correctement sans béquille. En tout cas, c'est le diagnostic à l'époque des médecins. Et à la suite de ça, on en reparlera, mais j'ai décidé de m'adapter à la situation et de ne pas faire une croix sur ma passion qui est la montagne.
Oui.
Et de continuer malgré tout.
De continuer à vivre de votre passion et à essayer de vivre malgré donc ce handicap que vous avez. Hein. Je rappelle à nos auditeurs, Alexandre, vous êtes arrivé en béquille, donc vous ne pouvez pas vous mouvoir correctement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce handicap moteur qui a un petit peu changé votre vie finalement ?
Oui, c'est un accident au départ qui, selon moi, était pas très grave. Oui. Par la suite, au fil des opérations et des rendez-vous chez les médecins, j'ai compris que ça serait plus grave que prévu et que la marche serait très pénible sur des longues distances. Alors aujourd'hui, j'arrive à peu près fonctionner sur 50 ou 100 mètres sans béquille. Oui. Pour le quotidien, c'est plutôt un bon point. Mais par contre, pour ma passion qui est la montagne et les randonnées, oui, l'exploration, ça a été un gros point d'arrêt.
Ouais.
Et les béquilles, l'exploration et la rando en béquille ont été une manière de pouvoir continuer à vivre cette passion.
Il y a eu tout un travail à faire, j'imagine, autour de l'acceptation de ce handicap. Pour vous, qui était un peu un hyperactif, un grand sportif, ou en tout cas quelqu'un qui était toujours un petit peu par Mons et par Vaux, j'imagine qu'il y a eu une période d'acceptation ou de lutte contre peut-être le déni, non ?
Oui, oui. Ouais. Au départ, je pense que sur les 2-3 premiers mois, je suis complètement dans le déni. Ouais. Je me dis que c'est juste une fracture, que en l'espace de 2-3 mois, ça sera résolu. Je me rends compte au fil des mois que ça ne sera pas le cas. Donc, passé cette période de déni, il y a effectivement l'acceptation. La patience aussi, puisque ce chemin de guérison est incertain et très long, et des solutions qui arrivent, c'est-à-dire que étant face à cet handicap, j'ai commencé à chercher des solutions, dont notamment l'ascension un jour. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai décidé de me challenger et de gravir le sommet de la Rune au Pays Basque. Ouais. En béquille. Et cette ascension, même si ça m'a fait peur au début, j'ai été traversé par toutes sortes de peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de me faire mal, la peur du regard des autres aussi, qu'est-ce qu'on va penser de moi arrivé là-haut. Finalement, j'y suis arrivé, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux en faisant une blague, en disant que la prochaine étape, pourquoi pas, ça serait le cercle polaire. Et c'est ça qui a tout déclenché.
D'accord. Passionnant, c'est-à-dire que vous avez eu, par l'intermédiaire du fait de raconter ce qui a l'air un peu anodin, même si c'est pas anodin de monter la Rune en béquille, vous avez eu des réactions et des soutiens, c'est ça qui vous ont un petit peu rassuré et qui ont permis de déclencher cette idée folle de faire une expédition dans le Grand Nord, une expédition polaire en béquille. C'est ça, il y a eu une rencontre un peu salvatrice sur ces réseaux sociaux, je crois que c'est... C'est Baptiste Vallée, c'est ça, avec qui vous avez co-réalisé le film Debout, on en reparlera tout à l'heure, mais qui vous a contacté sur les réseaux et c'était l'élément déclencheur de l'aventure, quoi.
Voilà, Baptiste, alors qu'on ne se connaît pas,
ouais,
me contacte à la suite de cette publication et me prend au jeu. Ouais. Il prend en sérieux, alors que moi j'avais annoncé ça un petit peu à la légère. Mm. Il me dit, ton projet, il est plutôt cool. Si t'es chaud, on y va. On part à deux explorer le cercle polaire et on en fait un documentaire.
Et une fois que vous avez fait cette rencontre, j'imagine qu'il y a toute une série de choses qui doivent se mettre en place. On parle de logistique, de préparation d'expédition. Alors, vous êtes un habité du froid, c'est pareil, on y reviendra un petit peu plus tard, puisque vous êtes aussi Alex Desgivray, hein. Mais je crois qu'avant tout ça, il y a aussi des lectures et des inspirations personnelles. Vous parlez parfois dans vos réseaux sociaux, vous parlez d'un livre notamment qui vous a un petit peu inspiré et qui a été un élément déclencheur de votre volonté de vous en sortir et de continuer à vivre normalement, à être...
Des livres, il y en a eu plein. Hein. Pensez bien que j'ai eu le temps de lire pendant cette période de repos forcé. Il y en a un en particulier, c'est sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, qui m'a beaucoup inspiré. Ça m'a invité en tout cas à me mettre en mouvement, à ne pas rester immobile malgré le handicap,
la fatalité, ouais.
Malgré de chercher des solutions en fait. Et en partant de là, ça m'a connecté en tout cas à ce que j'aimais le plus et ça m'a invité à réfléchir à comment continuer et à m'adapter à la situation. Mm. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés.
Et c'est comme ça que voilà, vous vous retrouvez dans les îles Lofoten, au nord de la Norvège, et que vous avez fait filmer tout ça aussi, hein, parce que vous êtes co-réalisateur du film Debout, qui sera présenté ce samedi à Dax pour sa huitième projection. Parlez-nous, faites-nous un petit teaser peut-être avant la première pause. On va en parler plus en détail au cours de l'émission. Mais racontez-nous un petit peu cette idée du film Debout.
C'est même plus qu'un film, hein, c'est un documentaire, oui. Ça raconte du vrai, des périodes de difficultés, puisque j'ai demandé à Baptiste, avant de partir, je lui ai dit tu filmes tout. Voilà, on ne sélectionne pas, on verra après, puisque je voulais qu'il y ait un côté authentique, et surtout je me suis dit à ce moment-là, est-ce que cette épreuve de vie... comment on pourrait la transformer en quelque chose qui soit utile à la fois pour moi et aussi pour les autres. Et partant de là, j'ai vraiment voulu tout montrer, les bons côtés comme les moments de doute et de difficultés, les émotions. On a souhaité faire quelque chose qui colle au plus proche de la réalité.
Et qui, en plus de nous offrir une plongée au cœur des paysages sublimes et spectaculaires du Grand Nord, nous montrer aussi le challenge que ça représente, le défi que représente ce type d'expédition pour quelqu'un en béquille comme vous. Et donc ça déjà c'est très courageux de votre part. Chers auditeurs, c'est déjà l'heure de notre première pause. Alors je vous laisse en musique quelques minutes et on se retrouve juste après avec Alexandre Courtès pour la suite de nos échanges. À tout à l'heure. Et nous voilà de retour pour la deuxième partie de l'invité du 12-13 sur Souvenir FM ici à Souston, où nous avons le plaisir de recevoir Alex Desgivray, Alexandre Courtès, aventurier du Grand Nord en béquille. On parlait, Alexandre, dans la première partie, on a rapidement évoqué le film Debout, qui sera en projection à Dax. Avant de rentrer peut-être un petit peu dans le détail de ce projet, des personnes qui vous ont entouré, qui vous ont aidé à monter ce projet un petit peu fou, j'ai une première question. Moi, j'aimerais savoir d'où vous vient cette fascination pour le Grand Nord, pour le froid, pour les milieux polaires et hostiles.
Alors, les milieux polaires, alors je ne sais pas pourquoi, mais d'une part, c'est un rêve de gosse. J'ai toujours rêvé d'explorer ces contrées-là. Et puis, c'est aussi le froid, une partie de mes ressources aujourd'hui, puisque en 2020, j'ai découvert ce qu'on appelle la méthode Wim Hof, qui est basée sur le principe des bains glacés et d'exercices de respiration pour gérer le stress, même en situation extrême. Et partant de cette pratique, j'en ai fait... en la reliant à mon métier de base qui est la préparation mentale. j'ai trouvé intéressant de allier les outils cognitifs de la préparation mentale et les outils reliés à la perception de notre propre corps.
Oui.
Et la liaison des deux a fait que ça m'a énormément aidé par le passé. J'en ai fait des stages par la suite. Mmh. Et aujourd'hui, on a une communauté de givrés, comment dire, ouais. Où on se retrouve très régulièrement pour pratiquer les bains glacés.
Pour pratiquer les bains glacés, et effectivement, il y a cette connexion qui est présente chez vous quand vous en parlez, que ce soit hors antenne ou même sur votre site internet, etc., du lien entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire que mentaliser une expédition ou un effort physique, etc., c'est une chose, le raconter, c'en est une autre, le vivre et mettre son corps à l'épreuve de ça, c'est primordial quoi, pour vous.
Oui, la mise en mouvement, en tout cas pour moi, hein, chacun a sa manière de progresser dans la vie, de s'améliorer, mais la connexion avec le corps et d'éventuelles façons de réagir à la vie, ou des concepts philosophiques par exemple, la liaison entre les deux me paraît intéressante, puisque moi je pense qu'on en reparlera plus tard, mais ouais. Je pense que le corps est le parent pauvre du développement personnel. Mmh. Et la liaison des deux est, je trouve, intéressante, parce que ça permet de voir dans la vraie vie comment pouvoir s'adapter à des conditions, quelles qu'elles soient. Ça peut être en expédition, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours.
Alors, vous nous parliez tout à l'heure, Alexandre, de votre rencontre avec Baptiste Vallée, qui vous a contacté sur les réseaux sociaux après que vous ayez monté la rune en béquille. Je crois que... c'est quelqu'un déjà qui vous a aidé à progresser, dans le sens où vous avez eu l'idée avec lui. Enfin, sans lui, j'imagine que vous n'aurez jamais fait ce film debout, vous n'aurez jamais fait cette expédition. Moi, je suis très intéressé par le rapport que vous avez eu avec lui, la manière dont, du coup, il vous a aidé à monter ce projet, et comment, après, vous en êtes passé à la réalisation concrète de l'expédition, parce que j'imagine que c'est un gros boulot logistique, c'est un gros défi financier aussi, etc. Non,
la première idée qui m'a traversé l'esprit, c'est de partir seul, ce qui, avec du recul, n'était pas une très, très bonne idée. Et en échangeant avec Baptiste, on a construit pierre par pierre ce projet. On a fait quand même assez vite, hein, puisqu'on l'a monté en l'espace de moins de 3-4 mois.
Ouais.
Et on a dû résoudre tout un tas de défis, dont notamment le défi logistique. Le défi financier aussi, puisqu'une expédition en documentaire, ça coûte un certain prix. Et l'inspiration finale, celle qui m'a vraiment boosté et mis en mouvement, on en reparlera, mais c'est surtout l'association Ego Agmendian.
Ah oui.
Puisqu'avec Baptiste, on en était aux prémices du projet. J'étais très incertain en me demandant si est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partir, même accompagné dans mon état. Et je crois qu'on est en novembre ou en décembre, et je rencontre par hasard l'association Ego Agmendian, qui donne accès à la montagne à des personnes en situation de handicap, où je vois leur documentaire qui s'appelle Les ailes dans l'Himalaya.
Ouais.
Donc, ils ont réussi à amener une personne en situation de handicap à plus de 5 ou 6 000 mètres d'altitude. Et ça m'a vachement inspiré. Je me suis dit, mais c'est, les ressources qu'on peut avoir sont juste incroyables. Et je crois que c'est la liaison en fait, entre Baptiste, l'association Ego Agmendian, et tous les défis qu'on a, les défis techniques et logistiques qu'on a su résoudre, notamment grâce au guide, mais on en reparlera après.
Petit à petit, oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça a été vraiment l'élément déclencheur. À ce moment-là, vous vous dites, c'est possible. Ouais. Et puis non seulement c'est possible, il y a ce démarrage avec Baptiste Vallée, et puis en fait, on va le faire, quoi.
Yes.
Et au moment où vous vous dites que vous allez le faire, j'imagine qu'il y a un troisième, un quatrième ou un cinquième défi, je sais plus, mais c'est celui de la préparation concrète de cette expédition dans le Grand Nord. C'est-à-dire qu'on est quand même, on part pas comme si on allait faire du ski à Gourette, quoi. Il faut se préparer. Il y a quelqu'un d'un troisième larron, non, qui vous a aidé là-dessus?
Oui, d'autant plus que en termes d'expédition, moi à la base je suis habitué aux Pyrénées, mais j'y connais absolument rien en ce qui concerne les milieux arctiques.
Ouais.
Et donc il nous a semblé être une bonne idée de se faire accompagner par un guide qui nous a en réalité mâché tout le travail au niveau du roadbook,
oui,
qui nous a accompagné sur la partie bivouac,
oui,
et bon positionnement des lieux, puisque le défi c'est ça, hein, c'est six sommets, six, oui, ascensions en 10 jours. Et lors des 10 jours, on est resté tout le long en bivouac, donc sous tente et en autonomie totale. Et grâce à notre guide, on a pu réaliser cette expédition, mais sans non plus se mettre réellement en danger.
Sans se mettre en danger, ouais.
Voilà, même si les conditions étaient un défi et étaient challengeantes, on a quand même, grâce à lui, pu le faire en restant en sécurité.
D'accord. Donc en fait, ça, on s'en rend bien compte dans le documentaire Debout. Donc c'est une expédition qui dure 10 jours. Et alors vous l'avez faite. Il y a aussi moi quelque chose qui m'interpelle. J'aimerais vous poser la question parce que des milieux polaires, il y en a. On n'a pas l'habitude d'y aller, évidemment, mais il y en a beaucoup sur la planète. Alors vous avez choisi lesquels, vous, et pourquoi? Et racontez-nous un petit peu où ça s'est passé et comment vous avez vécu cette expérience.
Oui, parce que mon rêve, il est large. Hein. Le cercle polaire, c'est la zone est plutôt
vaste.
Vaste. Oui. On est parti sur les conseils du guide. Il y avait un cahier des charges.
Damien, c'est ça?
Oui, Damien, exactement. Oui. Damien Chevalier. Le cahier des charges était l'autonomie, que ce soit un lieu qui ne soit pas habité, qui soit en pleine nature. Et où on puisse faire nos 6 ascensions.
Oui.
Donc le roadbook est parti sur cette base-là. Ouais. L'idée, c'était de trouver des profils montagne. Et donc on s'est tout naturellement choisi vers les îles de Fauten, puisque la géologie le permet là-bas. On part du niveau de la mer, niveau 0, et on peut avoir une ascension très rapide, très raide même. Ouais. De 1000 à 1200 mètres, ce qui est peu pour un alpiniste chevronné. En revanche, quand on est en béquille, c'est un sacré défi. Donc voilà, c'était mon Everest.
Et alors, oui, parce que déjà que dans la neige, quelles sont déjà les premières questions? Enfin, les conditions météo dans les îles Lofoten, j'imagine qu'on est au bord de la mer, parce que c'est des fjords, on a des conditions de montagne, donc ça doit tourner hyper vite. Comment ne pas se faire piéger par ces conditions? Enfin, déjà, quelles sont-elles, les conditions météo au Lofoten?
Voilà, tout est mélangé. Avoir un grand soleil le matin, suivi d'une pluie, puis d'une grêle, puis d'une neige. Donc là, on avait l'aide précieuse de notre guide, qui, en plus de nous faire le roadbook et de nous suivre à distance, je crois qu'on avait 2 reporting par jour pour signaler notre position et notre état moral et physique. Et la seconde aide précieuse, c'était l'anticipation des conditions météo. Par moments, certains endroits étaient pas ou très peu conseillés pour planter le bivouac. Donc ça a été un petit peu notre fil d'Ariane tout du long de l'expédition. Et grâce à ces outils météo, on a pu anticiper les catastrophes. Puisque les météos qu'on pourrait avoir sur un iPhone sont tout simplement... caduc.
Eh oui.
On a pu profiter d'une météo professionnelle et d'être
et d'un
d'anticipation par rapport au terrain, ce qui n'a pas toujours été évident, mais on s'en est plutôt bien sorti. L'idée, c'était de partir à l'aventure. Il fallait trouver un mix entre le voyage organisé et le voyage inconscient. Et je pense qu'on a trouvé un bon compromis avec ce format-là. Et c'est ce qui a pu nous permettre de continuer l'expérience.
Et c'est ce qui fait la beauté de votre film documentaire Debout. Alors c'est l'heure de notre deuxième pause, donc on va se laisser en musique et avec le flash info local de Jean-Philippe Dandurand. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans l'invité du 12-13 sur Souvenir FM à Souston, où nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Courtès, Alex Desgivray, qui nous parlait de son expédition aux îles Lofoten, mais pas n'importe quelle expédition, messieurs, dames, une expédition en béquille. Alors là, première question, comment ça se passe? Déjà que quand on a 30, 40, 50 cm de poudreuse sous ses pieds et sans raquette, c'est compliqué, mais alors comment ça se passe quand on est en béquille? Avec quelle béquille vous avez fait cette expédition, Alexandre?
Tout simplement avec les béquilles de la pharmacie, mais avec quelques adaptations, puisque j'avais installé des crochets pour pouvoir avoir du grip et ne pas glisser, et garder quand même des appuis, et gérer le poids aussi du sac à dos, puisqu'on était en autonomie totale, donc à l'intérieur on avait 20 kg de matériel chacun. De mon côté, le réchaud à gaz, la tente, les sacs de couchage grand froid qui tiennent jusqu'à moins 30 ou moins 35 degrés. Et du côté de Baptiste, le matériel vidéo.
Le matériel vidéo, j'allais vous le dire. Matériel vidéo, il n'est pas venu avec son petit téléphone portable. Je crois que des caméras, bon, même s'il y a des progrès techniques hein, dans le matos, dans le matériel vidéo, sans problème. Enfin, par grand froid, notamment la nuit, ça ne doit pas être simple. Comment vous avez géré ça?
Je crois que c'était l'un des plus grands défis sur la partie logistique, le matériel vidéo, puisque de mémoire, on avait entre moins 10, moins 15, parfois moins 20 la nuit. Et on le sait, hein, les batteries, le froid, c'est leur pire ennemi. Plus les encombrements, le drone, puisqu'on a également profité de l'occasion pour faire de belles vues, à la fois avec le matériel vidéo et le drone. Donc la gestion logistique du matériel a été un sacré défi, mais Baptiste s'en est super bien sorti, il avait anticipé le coup.
Ça l'est très bien sorti, on rappelle que Baptiste, qui a co-réalisé, donc qui était le monteur caméraman, à qui vous avez demandé de prendre effectivement toutes les photos et vidéos possibles, c'était aussi une première pour lui.
Oui, c'était son premier long documentaire, il en a fait plein sur des courts formats. Mais par contre, j'ai vite vu son talent. Oui. Baptiste n'a que, entre guillemets, 21 ans. Bon, c'est là qu'on voit que la valeur ne fait pas
le nombre des années.
Et c'est quelqu'un de très talentueux. Moi, il m'a bluffé, tant sur le terrain, puisque c'est vraiment pas simple de sortir la caméra quand on est sur des températures extrêmes, que sur la partie finale. Moi, je lui avais donné pas beaucoup d'indications. Je lui ai juste dit tu filmes tout et on verra après. Et effectivement, à la sortie, au montage, c'est très fidèle à ce qu'on a vécu là-bas. Et puis il y a énormément d'émotions dedans. On a voulu vraiment que ça soit conforme et proche, au plus proche de ce qu'on a vécu. Donc à la fois sur la technique et sur le message, il a très bien restitué ce qu'on voulait.
Et puis c'était une première pour lui dans le Grand Nord aussi, c'est ça?
Oui, oui.
Alors, ça a été une découverte pour tous les deux, quoi, finalement.
Tout à fait. Je l'ai amené avec moi quand même pour s'acclimater au froid et qu'on puisse expérimenter, qu'il puisse expérimenter ne serait-ce que des bains glacés pour voir comment le corps réagit. On a fait une bonne préparation, tout de même physique en amont.
Oui, j'imagine.
Mais sur site, c'est encore différent.
Alors parlez-nous un peu, faites-nous un petit peu rêver, faites-nous voyager à la radio, même s'il ne faut pas dévoiler, je dirais, les coulisses et le documentaire en lui-même. Mais en termes de paysage, les îles Lofoten, ça donne quoi? Vous y étiez à la fin de l'hiver, c'est ça?
Voilà, on était donc on est parti sur tout début mars.
Oui.
Je crois que le moment qui m'a le plus impacté, ça m'a même tiré une larme d'émotion, ouais. C'est les aurores boréales.
Ah oui.
On s'y attendait plus trop, puisqu'on les a cherchés. Hein. Les aurores boréales, ça ne se présente pas
sur commande.
On avait même abandonné l'idée d'en voir une, et c'est au moment où on s'y attendait le moins qu'elles sont apparues. Ouais. Donc ça, c'était un moment fort. Hein. On a réussi à le capter, en plus, et à le mettre dans le documentaire. Et sinon, les paysages sont juste fous. Je pense que notre moment qui m'a impacté, c'est à la fin d'une ascension. On ne voyait pas très bien à cause du brouillard, et arrivé là-haut, ça s'est levé.
Oui.
On est content parce qu'on l'a vécu au moment où on y était. En plus, on a pu le capter en vidéo. Donc c'est à la fois des paysages qui sont gravés sur la pellicule, mais ils sont aussi gravés à vie dans la tête.
Ouais. Ah oui. Je veux bien vous croire que les Lofoten doivent être magnifiques à cette période. Est-ce qu'il y a aussi des moments où tous les trois vous vous êtes un petit peu fait peur dans cette expédition? Parce qu'on n'est quand même pas sur des territoires hyper accueillants quand même. Hein. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez un petit peu douté de votre projet, ou même vous vous êtes fait peur, ou vous vous êtes senti en danger?
Alors, peur, je dirais pas, puisqu'on avait quand même bien préparé. Et puis... on avait bordé quand même les itinéraires et le projet. En revanche, la fatigue et la question qui se pose, est-ce qu'on continue ou pas? Puisque le défi, c'était ça, hein, c'était de réussir les 6 ascensions. Alors, est-ce qu'on y est arrivé? Ça, je ne vais pas le dévoiler.
Oui.
Je ne vais pas spoiler le documentaire. Donc, pour le savoir, il faut venir le voir. Mais il y a quand même eu des moments de doute. Surtout vers la fin du défi, En réalité, la fatigue s'accumule. Moi, j'avais excessivement mal au bras, puisque j'étais en appui permanent sur les béquilles. D'ailleurs, le plus dur, ce n'était pas les montées, mais c'était les descentes.
Ah oui.
Puisque le poids du sac, oui. L'appui permanent sur les poignets. Je me suis réellement posé la question à plein de moments de savoir si on allait oui ou non continuer. Et voilà, c'est des moments où on va chercher des ressources au plus profond de soi.
Et alors, il y a l'action, il y a le moment où on fait l'expédition, où on en prend plein la vue, où on se fait un petit peu peur, mais après, il y a le rendu final. Alors moi aussi, ça m'intéresse, Alexandre, de savoir dans quel état vous étiez au moment où vous avez découvert les premières images montées par Baptiste. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là ?
Bon, il m'a bluffé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est très fidèle à ce qu'on a vécu, traversé. Il y a des moments, par contre, où je ne m'y attendais pas, notamment certains moments d'émotion, puisque la fatigue aidant et en étant dans l'action, on finit par oublier la caméra. Et donc, quand j'ai revu certaines images, ça m'a touché.
Oui.
Ça a touché aussi...
Et le public, j'imagine.
Le public, ma famille, mes amis, qui ont vu ce par quoi on est réellement passé, parce qu'on peut le raconter, mais on dit souvent qu'une image vaut mille mots. Quand on le voit sur l'écran, ça prend une autre dimension et ça m'a remis dans l'expérience et ça m'a touché puisqu'il n'y a pas que des paysages, il y a aussi des moments de difficulté, des moments d'émotion.
Des moments de rapport humain, etc.
Ouais,
dans ce beau documentaire qui s'intitule « Debout » et que vous pourrez voir à Dax. Alors rappelez-moi le cinéma à Dax.
Alors c'est le cinéma Le Grand Club.
Voilà, au Grand Club. Et c'est samedi 25 avril à 19h, c'est ça ?
Oui, samedi la projection. 25 avril à 19h30.
Et donc c'est la huitième projection de ce documentaire, co-réalisé donc par notre invité du jour, Alexandre Courtès, qu'on appelle aussi Alex des Givrés. Alors moi j'ai une autre question, sortons un petit peu du documentaire et parlez-moi de cette communauté des Givrés et puis de la méthode, il me semble que c'est une méthode, c'est ça qui est évidemment le nom l'évoque, lié au froid. Racontez-nous un petit peu.
Oui, alors d'où ça vient ces gens qui, qui se mettent en maillot de bain dans des eaux glacées. Comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un outil moi, qui m'a profondément aidé au fil des années. J'ai réussi à faire le lien entre des idées ou des concepts philosophiques et la réalité du quotidien, du terrain. Et c'est cette approche donc, qui mêle les bains glacés et des pratiques de respiration, par le passé, m'a déjà beaucoup aidé en termes de gestion du stress, en termes de gestion de l'anxiété, en termes d'introspection aussi, puisqu'on le voit souvent comme un moyen de dépassement de soi, mais c'est aussi et surtout un moyen de se reconnecter à soi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à proposer cette expérience à des gens, donc au début c'était des potes, et puis le bouche à oreille aidant, ce sont d'illustres inconnus qui sont venus à ma rencontre, et on a fini par créer une communauté, on est à peu près 300,
et quand même.
De 300 personnes, et on se voit régulièrement pour pratiquer les bains glacés, soit en montagne, ou soit dans les Landes. Ah. À Sognac, pas très loin d'ici.
Et alors vous mettez des glaçons dans une baignoire.
Exactement. Voilà,
Aimer ça. Hein. Moi, je ne fais pas partie de cette team, mais bon, si vous acceptez des nouveaux, peut-être que je m'y mettrai, qui sait.
Alors,
je doute pas du fait que ça fasse le plus grand bien, Alexandre.
On pourrait dire que s'il y a beaucoup de likes sur cette vidéo, alors on vous emmène dans un bain glacé.
C'est gentil, Alexandre. C'est déjà le temps file, c'est déjà l'heure de notre dernière pause musicale et on se retrouve pour la conclusion de cette émission. À tout de suite. Et nous voilà de retour pour la dernière partie de l'invité du 12-13 sur Souvenir FM où nous recevons Alexandre Courtès. Alors Alexandre, on a largement passé en revue le projet de film documentaire lié à votre expédition dans les îles Lofoten, la méthode des givrés aussi, immersion dans les bains froids. Alors Alexandre, le projet que vous nous avez exposé jusqu'ici, bon, il n'a pas forcément vocation à s'arrêter là. Est-ce que vous avez prévu d'autres choses pour la suite ? Est-ce qu'il y aura une deuxième expédition ? Racontez-nous un petit peu.
Alors, c'est la première question qu'on nous pose, c'est est-ce que vous repartez ? Et la réponse est oui, naturellement, puisque en tout cas moi ce projet ça a changé ma vie, ça m'a permis de transformer ce qu'on pourrait appeler une épreuve de vie en ressources.
Et oui.
Donc au début pour moi et ensuite je me suis rendu compte que oui, ça peut aussi aider les autres. notamment les personnes qui ont vu le documentaire, mais aussi et surtout l'association Aiguag Mendiane, puisque au départ on était face à en plus du défi logistique, un défi financier. Donc on s'est dit qu'on pouvait peut-être créer une collecte de fonds pour pouvoir financer le documentaire Expédition. Et il s'est trouvé qu'on avait un excédent au niveau de cette collecte de fonds qui a plutôt bien marché. Et sans trop calculer, on s'est dit, bah, tiens, on va donner l'excédent à l'association Aiguag Mendiane. Et sans s'en rendre compte, en fait, on a créé comme un concept, puisque voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de documentaires sur le dépassement de soi et sur des défis qui sont mis en avant sur les réseaux, même au cinéma. Et là, on s'est dit, tiens, on se fait plaisir, on va se dépasser, mais pas que. C'est pas qu'une quête de l'ego ou de la performance. Et si on pouvait rendre utile ce genre de projet à une association ou le rendre d'utilité publique, ça pourrait être une bonne idée. Et on a très très envie de recommencer. Parce
que, en alors, fait, est-ce que vous y retournez? Est-ce que vous allez repartir?
J'ai fait une réponse d'un politicien là. Ouais. Donc oui, on va y repartir sur la même base. Même concept, on recrée une collecte de fonds, on choisit la destination et en même temps on va aider une association handicap et créer un nouveau documentaire. Ça, en tout cas, c'est dans les cartons. Et je trouve que c'est un tout cohérent qui nous ressemble et qui nous parle beaucoup. Et voilà, c'est utile et on joint l'utile à l'agréable.
Bah c'est super, Alexandre. On arrive bientôt à la fin de notre émission et vous me disiez tout à l'heure pendant les pauses musicales cette phrase que je vais répéter en conclusion de notre émission. Vous disiez que c'est facile d'aider les autres, mais c'est moins simple de demander de l'aide. Alors je finirai moi sur ce beau message. Chers auditeurs, il ne faut pas avoir peur de vous faire aider et d'aller au bout de vos idées, même les plus folles. Et je pense que c'est le message qu'Alexandre a fait passer aujourd'hui. Et pour ça, je vous en remercie. Je vous félicite aussi pour les défis que vous avez relevés et la résilience dont vous faites preuve. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite de ce projet qui, espérons-le, va peut-être raccrocher d'autres associations, d'autres initiatives. Donc voilà, je voulais vous remercier avant de quitter nos auditeurs et de retrouver David pour la suite de la programmation, Alexandre.
Merci Marc.
Adi Schatz.